Comme vous voyez, j'ai choisi pour titre de cette méditation « Que aussi soit un ». Alors, ne vous méprenez pas, vous doutez bien que ce n'est pas en référence avec la devise des mousquetaires « Tous pour un pour tous ». Ce titre fait évidemment référence au texte de l'Évangile de Jean, où Jésus prie pour l'Église de Seloncourt. Oui, il prie pour l'Église de Seloncourt. Je vais vous lire le texte où Jésus prie pour l'Église de Seloncourt. C'est dans Jean 17, versets 20 et 21. « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Pour replacer dans le contexte, Jésus est avec ses disciples, mais il ne parle pas à ses disciples. Il prie pour eux. Mais il voit bien au-delà de ses 12 disciples, de ses 12 apôtres. Jésus mentionne aussi tous ceux qui croiront suite à la diffusion de l'Évangile, c'est-à-dire non seulement à Jérusalem, mais sur toute la planète, et aussi au cours de tous les siècles. Et bien évidemment, l'Église de Seloncourt fait partie de toutes ces personnes. Mais bien sûr, pas seulement l'Église de Seloncourt. L'Église du Nigeria aussi. L'Église de Corée du Nord avec toutes ses persécutions. L'Église d'Ukraine qui est sous les missiles. L'Église de Russie. Et aussi toutes les églises où on confesse le nom de Jésus comme Fils de Dieu Sauveur. Est-ce que ce n'est pas extraordinaire, cela? De savoir que, oui, nous prions, mais que Jésus aussi a prié pour toutes ces choses. Mais il y a plus encore. Parce que Jésus ne prie pas seulement pour les églises. Il me voit, moi aussi, quand je me débats dans mes petits problèmes. Et il voit chacun de nous, chacun de vous, dans vos galères, mais aussi dans vos moments de bonheur et de louange. Et qu'est-ce qu'il fait quand il nous voit dans une galère? Il prie pour nous. Et qu'est-ce qu'il fait quand il nous voit dans un moment de louange? Il prie pour nous. Quand Jésus dit qu'il soit un, il ne prie pas seulement pour que les chrétiens soient d'accord entre eux, mais pour qu'ils soient comme Dieu le Père est uni à Dieu le Fils. Cette unité de Jésus avec Dieu, eh bien Jésus, il la mentionne plusieurs fois dans les évangiles, en expliquant qu'il est dans le Père et que le Père est en lui. Et il dit même que quand quelqu'un voit le Fils, quand quelqu'un le voit lui, il voit le Père. Quand les choses sont répétées plusieurs fois, c'est qu'elles sont importantes. Et Jésus insiste. On lit dans Jean 10, verset 30, « Moi et le Père, nous sommes un. » Et au verset 39, 38, un peu plus loin, « Quand même vous ne me croyez point, croyez à ses œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. » Et il répète dans Jean 14, versets 9 et 10, Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi Je suis dans le Père et le Père est en moi. Quand on lit ces textes, on comprend qu'il ne s'agisse pas seulement d'être unis entre nous. L'union du Père, du Fils et du Saint-Esprit, elle n'est pas banale parce que elle aborde le mystère de la Trinité. Un seul Dieu, mais trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit. On dépasse la simple notion de l'unité des croyants, du moins, c'est ce qui me semble. Paul écrit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans ce verset, Paul nous rappelle que nous sommes, nous aussi, des êtres trinitaires. Le corps qui nous rend visibles, l'âme qui est le siège des sentiments, des émotions, l'esprit qui est le siège du raisonnement. Nous sommes trinitaires, et c'est d'ailleurs un des éléments qui nous rend semblables à Dieu. Nous sommes un en trois parties, totalement un, mais avec ces trois éléments tellement influents les uns envers les autres et tellement dépendants les uns des autres. Et pourtant, dépendants les uns des autres, mais pas toujours en harmonie. Dans le texte de 1 Thessaloniciens que nous avons lu, Paul spécifie que chacun des éléments qui font notre personne doit être irrépréhensible. Finalement, ça suggère que notre personne, avec ses trois composants, corps, âme et esprit, ont une certaine autonomie et que notre esprit peut être irrépréhensible quand notre corps et notre âme ne le sont pas, et vice-versa. D'ailleurs, nous sommes en mesure de le vérifier chaque fois que notre conscience nous interpelle. Malheureusement, cette dichotomie peut nous amener à faire des compromis. Et dès la première Église, certains chrétiens avaient voulu séparer ce que fait le corps, considéré comme le siège du péché, de ce que fait l'âme, sanctifiée par Dieu. Ils considéraient que les excès du corps ne concernaient pas l'âme. Ils laissaient la débauche s'installer dans leur vie, considérant qu'elle n'atteignait que le corps. Et Jude consacre l'essentiel de son épître à dénoncer cette hérésie. Jésus aussi, dans l'Apocalypse, nous parle des Nicolaïtes, quand il mentionne deux des églises de l'Apocalypse. Il mentionne les Nicolaïtes qui étaient promulgateurs de cette même doctrine. Alors, les composants de notre être sont dépendants les uns des autres, et le livre des Proverbes et celui des Psaumes l'établissaient déjà. Ils donnaient un lien direct entre la sagesse et la santé du corps. On lit dans Proverbes, chapitre 3, verset 8, « Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. » Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Et dans Proverbes, chapitre 4, versets 20 à 23, « Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Et aussi, dans le psaume 38, verset 3, « Il n'y a rien de sain dans ma chair à cause de ta colère, il n'y a plus de vigueur dans mes os à cause de mon péché. » On voit donc déjà Salomon et les psalmistes s'était rendu compte que ce que fait le corps a une influence sur l'âme, et vice-versa. L'interdépendance de la santé mentale sur la santé physique, elle n'est plus à démontrer, et c'est souvent en libérant le psychique que l'on délivre le physique. Dieu a créé l'être humain avec une parfaite harmonie. Il le dit quand il dit « Dieu créa l'homme et la femme, et il vit que tout cela était bon ». Dans Genèse 3, le péché a brisé cette belle unité. L'âme d'Ève et celle d'Adam ont été séduites par le tentateur qui leur a promis une pseudo-liberté. Leur raisonnement s'en est trouvé complètement perverti, entraînant leur être tout entier dans la désobéissance. Après avoir péché, on voit que l'harmonie de l'être a été complètement brisée, puisque le péché a entraîné Adam et Ève à avoir honte de leur corps. La belle harmonie créée par Dieu était brisée. Et Dieu s'est lancé le défi de sauver l'homme en le faisant naître de nouveau avec cet objectif, être semblable à lui. Et c'est ce que Jean écrit dans sa première épître, dans 1 Jean chapitre 3, versets 1 à 3. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Est-ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Être semblable à lui, ce n'est finalement qu'un retour aux sources, puisque l'homme avait été créé semblable à Dieu. Et c'est cette unité qu'il avait donné à la création que Dieu réclame à nouveau pour l'homme. Quand Jésus prie pour que les disciples soient un, c'est aussi pour qu'il y ait unité dans leur corps, âme et esprit. C'est pas seulement pour qu'ils soient un entre eux. Nous ne pouvons pas vivre l'unité de l'Église sans avoir notre unité intérieure. L'équilibre entre notre corps, notre âme et notre esprit, ce sont souvent nos propres contradictions qui ouvrent des conflits avec nos semblables. Jésus pointe du doigt ces contradictions qui habitent l'homme. Il parle des contradictions de la foule après la multiplication des pains qui s'attachent à nourrir le corps sans nourrir l'âme. Jésus avait prêché pendant plusieurs jours, nous disent les textes bibliques. Il avait prêché pour nourrir leur âme. Et il n'avait nourri leur corps que pour pallier à un besoin ponctuel. Mais pourtant, c'est le besoin temporel comblé qui les avait interpellés plus que le message éternel. On lit dans Jean chapitre 6, verset 26, Jésus leur répondit, « en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. » Jésus pointe aussi la contradiction de ceux qui ont l'apparence de marcher par l'esprit, mais qui ne maîtrisent pas leur corps. Dans Matthieu, chapitre 7, versets 22 et 23, il est écrit, plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom ? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ? Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Jésus pointe aussi les pharisiens qui ont la connaissance intellectuelle de la loi, mais qui ne savent pas l'analyser et ne se l'appliquent pas. Dans Matthieu, chapitre 23, versets 1 à 3, il est écrit « Alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit « Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. » Oui, lorsque quelqu'un s'approche du Seigneur, il arrive que sa seule motivation soit un besoin du corps. Maladie, difficultés financières, solitude. Dieu peut répondre à ses besoins, mais ça ne suffit pas. Le corps s'est approché de Dieu, a reçu ce qu'il cherchait, mais Dieu veut une relation totale avec lui. Bien sûr, nous pouvons venir à Dieu pour être guéris ou pour toutes sortes de situations difficiles, mais Dieu veut plus que notre corps. Il veut aussi notre cœur, il veut aussi notre esprit. D'autres peuvent avoir été convaincus par des arguments qu'il y a un Dieu créateur, et même, pourquoi pas, un Dieu sauveur. Ils croient intellectuellement en Dieu. Mais si tout cela reste dans leur tête, c'est leur esprit qui a été convaincu. Jacques, dans son épître, écrit « Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. » Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Dieu veut plus que cela. Il veut notre cœur. Il veut que cette croyance ait un impact sur notre vie de chaque jour. On peut voir d'autres qui sont impressionnés par des miracles, par des guérisons, par des prophéties, ou l'engagement et la piété de certains chrétiens. Il y a des personnes qui vous disent « Ah, j'aimerais bien avoir ta foi. » Ils sont dans l'émotion. Mais s'ils ne vont pas plus loin, c'est leur âme qui a ce désir de s'approcher de Dieu. Mais Dieu veut plus que cela. Nous pouvons être impressionnés par ce que Dieu fait et admirer ses interventions miraculeuses. Dieu veut plus que notre émotion. Il veut notre adhésion, l'adhésion de notre être tout entier. Il veut que nos corps et nos têtes ne se laissent pas souiller par l'ennemi. Oui, Dieu est pédagogue, il est patient avec nous. Aussi, pour nous démontrer que nos êtres tout entiers l'intéressent, il nous a donné des éléments, des repères, ce qu'on appelle des sacrements, où les trois éléments de notre être sont impliqués. Le baptême et la Sainte Cène. Le baptême implique notre volonté. C'est nous qui devons demander le baptême. En tout cas, c'est comme cela que ça avait été institué. En voulant par excès de zèle baptiser les bébés, l'Église a amputé le baptême d'un tiers de sa valeur. Alors, pour compenser, il a institué la confirmation qui permet à la personne d'engager sa volonté. Le baptême implique aussi notre âme. Il est signifié par une confession de foi publique. Le baptême implique notre corps, puisque c'est notre corps qui est submergé, qui simule la mort et la résurrection lorsqu'il sort de l'eau. On peut dire aussi que dans le baptême, tout cela est souligné par la parole du baptiseur, qui baptise au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Le baptême n'est rien par lui-même, mais il est tout par sa symbolique. On peut faire des baptêmes avec quelques gouttes d'eau, pourquoi pas. On peut même faire des baptêmes sans vraie confession de foi. La personne est venue, c'est qu'elle confesse sa foi. On peut même ne pas se faire baptiser. Le salut n'est pas dans le baptême. Mais quel bonheur de réclamer ce témoignage public avec une confession de foi vécue. C'est pareil pour la Sainte Cène. Elle aussi, elle peut être prise de différentes manières, mais elle porte, elle aussi, des symboles forts. Elle implique notre corps, puisque nous consommons les éléments, Elle implique notre âme, puisque Jésus nous parle d'alliance et de rémission lorsqu'il dit « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés ». Elle implique aussi notre esprit, puisque Jésus indique « Faites ceci en mémoire de moi ». Lorsqu'on approfondit toutes ces choses, on voit combien le message est puissant et il ne doit pas être pris à la légère. Dieu veut une pleine harmonie dans notre être. C'est ce qui nous rendra heureux. C'est aussi ce qui nous rapprochera de Dieu. Est-ce que j'ai donné tout mon être entier à mon Sauveur? Ou est-ce que j'ai gardé mon précaré? Nous ne sommes évidemment pas parfaits. Enfin, je vais corriger. Du moins, je ne suis pas parfait. Et cette perfection, je sais que je ne pourrai l'atteindre que dans l'éternité avec Dieu. Mais je ne peux pas donner mon âme à Dieu et lui interdire mon esprit et mon corps. Si c'est le cas, je risque fort de m'entendre dire, comme nous l'avons lu dans Matthieu 7, « Alors je leur dirai, c'est Jésus qui parle, « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Alors, pour terminer, j'aimerais que nous nous mettions devant le Seigneur pour nous examiner nous-mêmes, comme l'apôtre Paul le dit dans la première épître aux Corinthiens, que chacun puisse se poser ces questions. Est-ce que mon corps appartient à Dieu ou est-ce que je le considère, est-ce que je considère que je peux en faire ce que je veux? Est-ce que mon âme appartient à Dieu ou est-ce qu'elle est partagée? Est-ce que mon esprit appartient à Dieu ou est-ce que je soumets l'Évangile à mes propres raisonnements? J'invite chacun à se poser ces questions pour lui-même et à éviter de les poser pour les autres. Finalement, je pense que ces trois questions, elles peuvent se résumer en une seule. Est-ce que je suis un comme Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit sont un, ou est-ce que mon être est partagé? J'aimerais qu'on puisse s'incliner pour faire le point. Seigneur, je confesse que bien souvent, j'ai des décalages entre mes pensées, entre ma volonté, entre mes agissements. Et j'ai tellement besoin, Seigneur, que tu mettes cette unité parfaite qui existe en toi, que tu la mettes en moi. Que l'image que je puisse donner ne soit pas une image partielle de toi. Les clivages qui sont en moi font des clivages avec les autres. Seigneur, dans cette salle, il n'y a pas des chrétiens de l'âme, des chrétiens du corps et des chrétiens de l'esprit. Il y a des disciples. En tout cas, c'est ce que tu veux pour chacun de nous. Et Seigneur, je viens vers toi maintenant, Seigneur. Et je te dis, s'il te plaît, Seigneur, viens me faire un. Un en moi-même pour que je puisse être un avec toi et un avec mes frères et sœurs. Merci Seigneur pour cette grâce. Amen. J'aimerais vous laisser ce verset de Romains 8, 29 et 30. Par ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Être des frères de Christ à part entière, ça paraît inimaginable. Et pourtant, c'est ce que Dieu a préparé pour nous. Il nous a prédestinés à ça. Mais il nous a laissé la liberté aussi de nous en affranchir.